Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus, malgré le trafic un peu difficile à Bordeaux aujourd'hui. Jean-François Marmion, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation.
Mais bonsoir et merci de m'avoir invité. Ça fait partie des divines surprises de la connerie. Se retrouver à la librairie Mola. Ben j'ai rien compris, mais je suis venu.
C'est ça qui est génial, c'est que on va pouvoir dire des gros mots ce soir.
Oui, au moins un.
Alors, au moins un, mais on va le quand même. Il y a plusieurs exceptions, voilà. Donc, et on va en parler longuement. Alors, Jean-François Marmion, vous êtes donc psychologue, vous êtes rédacteur en chef de la revue Cercle Psy, et vous venez donc nous présenter ce soir l'histoire universelle de la connerie aux éditions Sciences Humaines, qui fait suite à un premier livre, Psychologie de la connerie, qui a connu un grand succès, qu'on a défendu bec et ongle à la librairie, et qui effectivement nous a étonnés et nous a emballés. Psychologie de la connerie, on va en parler un petit peu ce soir, peut-être avant d'enchaîner sur l'histoire. Mais psychologie de la connerie, c'est une trentaine de contributeurs avec quand même des grands noms de la psychologie, des neurosciences, de la philosophie. On y trouve Boris Cyrulnik, par exemple, Jean-Claude Carrière, Antonio Damasio. Et c'est vrai que c'est un petit ovni dans le monde éditorial. C'est un livre qui est à la fois mordant, irrévérencieux. Et pour un livre sur la connerie, c'est très intelligent aussi, c'est très très bien fait, puisque en parlant de la connerie, bien évidemment, pas forcément de toute l'humanité, mais en tout cas d'une partie.
Pas de vous.
Non, voilà, pas de nous.
Mais nous, hein.
Mais des autres.
Oui.
L'autre, c'est le con, hein. Voilà. Donc ça permet quand même de brasser large, effectivement, sur un petit peu tous les affects, qu'ils soient cognitifs, intellectuels, moraux, de l'humanité. Alors, d'abord, on va commencer par une première question basique, mais effectivement, quand on parle de connerie, il faut savoir de quoi on parle exactement. Parce que c'est quand même un terme hein, qui est polysémique, hein, qui recouvre quand même plusieurs réalités différentes. Il y a vraiment le côté moral, puisque on le voit, la connerie va aussi un petit peu avec la partie sombre de l'humanité, avec la violence, la guerre, le mal. Il y a aussi un aspect intellectuel. Celui qui est con, c'est peut-être aussi, est-ce que c'est celui qui manque de culture ou qui est simplement bête. Un côté aussi cognitif, avec les biais cognitifs dont on aura l'occasion de parler. Un côté médical aussi, au 19e siècle, quand on parlait de crétin ou d'imbécile, il y avait aussi une connotation psychiatrique. Donc en fait, voilà, il y a plusieurs définitions qui peuvent aller avec ce terme-là. Comment vous définissez-vous la connerie ?
Eh bien, je ne la définis pas. Il y a vraiment trop de définitions possibles. Alors, à un moment, je me disais, tiens, la persistance satisfaite et agressive dans l'erreur, c'est pas mal, ça. À un autre moment, je me suis dit, tiens, juger sans savoir ni se soucier de savoir. C'est pas mal. C'est des trucs qui reviennent dans le livre, comme ça, dans les deux livres. Mais aucune n'est évidemment exhaustive. Moi, j'aime bien dire que le con, c'est notre épouvantail personnel. C'est celui dans lequel on ne veut surtout pas se retrouver de quelque chose en commun. C'est pas moi. T'as rien à faire avec moi, je veux pas te voir. Et le con, c'est parfois nous aussi. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait agi. J'ai l'impression que ça... Mais c'est éminemment subjectif. Une définition objective de la connerie, je crois que non seulement que c'est impossible, mais que ce n'est pas souhaitable. Parce que ça voudrait dire qu'on a compris quelque chose, un phénomène aussi complexe. Ce serait bien imprudent. Ce serait peut-être même un peu con. Donc je préfère rester dans le flou. On sait tous intuitivement ce que c'est. C'est comme l'amour. On sait ce que c'est que l'amour. Mais après, on parle de quel amour? L'amour pour les enfants, l'amour pour son travail, l'amour pour ses parents, l'amour pour Dieu, l'amour de la musique. C'est le même mot. Ça recouvre des choses très différentes. C'est très difficile à définir. Mais on sait ce que c'est. Ben, la connerie, c'est un peu ça. Je dis pas que c'est un peu l'amour. Non.
Bah, y a de l'amour dans la connerie et de la connerie dans l'amour.
Il y a un plus de connerie dans l'amour que d'amour dans la connerie, à mon avis.
Est-ce que ce serait faux de dire que c'est alors c'est une déviance dans le sens où c'est une espèce de sortie de route, c'est-à-dire que voilà, alors je parlais des biais cognitifs tout à l'heure, l'un des exemples de la connerie que vous citez dans le livre aussi, c'est tout ce qui est erreur de jugement, décision absurde, des choix qui sont désastreux. Est-ce qu'on peut imaginer plusieurs catégories cognitives, intellectuelles, morales ou est-ce qu'on peut toutes les combiner d'ailleurs? Est-ce qu'on peut être méchant, bête?
Hélas, ça n'empêche pas l'autre, oui. Non, vous parliez de sortie de route. Le problème, c'est qu'on est programmé pour sortir de la route. c'est pas tout à fait un accident. On sort pas de la route par accident, en l'occurrence. On est fait comme ça. On est fait, on parle des biais cognitifs, pour réfléchir et juger le plus vite possible. Et a posteriori, si on nous dit « mais pourquoi ?», alors là, on trouve des bonnes raisons. Mais sur le moment, quasiment toute la journée, on juge tout le temps, tout le monde, sans savoir. Parce que ça va plus vite comme ça. Et ça marche comme ça. Ça marche pas si mal que ça. On arrive à ne pas s'entretuer alors qu'on passe notre temps à avoir des malentendus les uns sur les autres. Ça marche pas si mal. Sinon, vous imaginez, le prix Nobel Daniel Kahneman, dans le livre, dans le premier, parle de système 1, système 2. Vous savez, les deux vitesses de la pensée. Le système 1, c'est celui qu'on utilise tout le temps. En ce moment, vous utilisez le système 1 pour dire « Est-ce qu'il est aussi bien que ça, Marmion ?» Est-ce que... Ok. Le système 2, c'est « Attendez, je suis obligé de sortir de mes automatismes, de mes routines, il faut que je réfléchisse. » Le système 2, c'est quand vous passez un examen. Vous vous souvenez quand vous avez passé le bac, la tête comme ça à la fin ? Ben, c'est vous étiez en système 2. Ça ne veut pas dire que vous avez eu votre bac forcément, que vous avez eu les meilleures réponses. Ça veut dire que là, vous avez vraiment réfléchi. Vous imaginez si on était comme ça toute la journée ? Invivable. Voilà, l'espérance de vie. Poup ! Donc, très vite, très vite, très vite, on juge, on réfléchit, paf, et on décide. Dans une situation d'incertitude et de complexité. Et on est persuadé d'avoir raison. Parfois, on a raison, oui. Souvent, on a tort, mais ce n'est pas grave, ça marche. Donc, on est programmé pour sortir de la route.
D'accord.
Programmé pour être un peu con, quoi, parce que...
Donc, la connerie est le propre de l'homme, en fait.
Alors...
Et question subsidiaire, les animaux sont-ils cons ?
Alors, question débattue, surtout dans le deuxième livre. Prenons les animaux qui nous ressemblent le plus, les primates, évidemment. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont cons ? C'est pas si évident que ça. Ils sont soumis à des biais cognitifs comme nous. Eux aussi, en situation d'incertitude, ils jugent un peu n'importe comment, mais ça marche. Est-ce qu'on peut dire que c'est con ? Parce que c'est pas vraiment logique. Ça se discute. En revanche, est-ce qu'ils prennent les autres pour des cons ? Est-ce que, par exemple, ils arrivent à lui piquer sa nourriture quand il a le dos tourné ? Oui. Mais ça veut pas dire qu'ils l'ont vraiment pris pour un con. Ils ont rusé. Mais ils n'ont pas destitué l'autre. S'il est dominant, ils vont pas considérer qu'il est dominé. Et puis, pour prendre l'autre pour un con, il faut une certaine imagination, il faut lui attribuer des sentiments, il faut lui attribuer des intentions, il faut interpréter son comportement. Souvent, les singes ne font pas ça. Ça leur est inutile au quotidien. Leur cerveau ne s'est pas développé comme ça. Donc, on peut considérer que parfois, ils sont la lisière de la connerie, ou selon nos critères humains, Steven Pinker dit, oui, il y a des animaux qui se conduisent comme des connards. Au bout d'un moment, ils refusent de s'occuper de leurs petits, ils les chassent. S'ils peuvent manger un petit faible, ils le font. Il y a des espèces qui font ça. Donc, de notre point de vue, c'est choquant. C'est des connards. D'accord. Mais, tout de même, indéniablement, on a une certaine sophistication en la matière. C'est le revers de l'évolution, un peu. Nous, on a un cerveau tellement développé dans certaines parties qu'on est capable de penser à des tas de choses qui n'existent pas. On est capable de ruminer notre passé. On est capable de ruminer ce qu'on a fait il y a 40 ans. Aucun animal ne fera ça. Aucun animal va dire « Ah, il y a 40 ans, j'ai envoyé des mauvais signaux à ma mère. » Non, 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 non. Aucun animal ne dira « Ah, dans 40 ans, je serai mort. » Et machin, il n'est plus là. Où est-ce qu'il est ? Il peut se poser la question. Il arrive qu'on arrive à développer les capacités de singe de façon à ce qu'il communique avec nous par des signes, par des objets qu'il manipule. Alors, ils peuvent se demander où il est, machin, quand ils ont remarqué que machin était mort. Mais ça ne va pas plus loin. Ils ne vont pas se demander s'il est en enfer. Ils ne vont pas se demander s'il a bien agi, et s'il va ressusciter un jour. Ça, c'est humain. Et donc, je ne dis pas que c'est de la connerie, mais je dis que nous, on a cette capacité de s'abstraire de notre environnement immédiat et de se raconter des histoires sur nous-mêmes. Moi, je suis comme ça, j'ai fait ça, je veux faire ça, ta-ta-ta. Les histoires changent tout le temps, mais on a l'impression qu'il y a un fil continu, un fil directeur. Donc ça, c'est notre propre à nous, et ça nous mène aux plus belles choses. C'est ça qui nous conduit à écrire des romans, à de la créativité, à imaginer des théories philosophiques, des religions. C'est l'abstraction. Mais c'est aussi l'abstraction qui nous pousse à des conneries. Qui nous pousse à dire, ouais, moi, je suis quand même plus malin que vous, parce que ta 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 ta, et on va toujours trouver des arguments. Ou alors, moi, je me laisserai pas faire, moi, je suis quelqu'un de bien, et puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si j'ai les moyens, je vous extermine. Ça, c'est l'imagination aussi, hein. On se fait des films, on se fait des théories, Et on est persuadé qu'on peut les confirmer à travers des indices, à travers des lectures, des conversations. J'ai raison. Ça, c'est de l'abstraction. C'est le revers de la médaille. C'est, l'un ne va pas sans l'autre. L'abstraction nous rend capables du meilleur, la création artistique, l'amour qu'on porte aux autres, voilà, et du pire, la haine qu'on porte aux autres, la suffisance, la violence, la guerre, tout ce que vous voulez.
Mais alors, est-ce qu'on peut vivre sans être con ?
J'ai plombé l'ambiance, hein. Mais c'est pas fini.
Est-ce qu'il y a un remède, en fait ? Alors, c'est quoi le contraire de la connerie ? Est-ce que c'est la bienveillance ? Est-ce que c'est l'intelligence ? Est-ce que c'est la sagesse ? Est-ce qu'on peut à un moment décider d'arrêter d'être con ?
On peut essayer.
Ce qui est déjà pas mal, en fait, en soi.
Tout le monde n'est pas capable de ça, c'est déjà pas mal, oui. Généralement, on arrête les petites conneries qui ne nous coûtent pas cher à arrêter. Oui. Les grosses, non, non. Oui. Est-ce que c'est le contraire de l'intelligence ? Bah, je ne pense pas. Ça voudrait dire que la connerie, c'est un manque d'intelligence. Il y a des gens très intelligents qui se comportent comme des parfaits connards. Hein. Regardez les gens bardés de diplômes. Alors, je ne vais citer personne, mais qui... Non.
On a tous quelqu'un en tête.
Qui font de la politique, qui élaborent des partis extrémistes. C'est des gens très intelligents, souvent. Ils sont profs de fac, des fois. Hein. Donc, a priori, ils ne sont pas bêtes. Ils ont de la culture, ils sont capables de passer des examens, d'être reconnus par leur père, de faire carrière. Ce n'est pas des gens qui ont la tête vide non plus. Après, est-ce qu'ils utilisent bien ce qu'ils ont dans la tête ? Là, la connerie peut intervenir. Donc, je pense que ce n'est pas un problème d'intelligence. Alors, est-ce que c'est un problème de sagesse ? Oui, je pense que c'est plutôt le contraire de la sagesse, sachant que je suis incapable de vous définir ce que c'est que la sagesse. Il ne faut pas compter sur moi. Mais Einstein a dit un beau truc, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, il a dit « L'intelligence, c'est résoudre les problèmes, la sagesse, c'est les éviter. » Il dit « Waouh !» Il ne s'appelait pas Einstein pour rien, celui-là. Hein. Effectivement, peut-être que l'intelligence peut nous tirer des conneries qu'on provoque, ou peut-être qu'elle peut nous y enfoncer encore plus. Mais je pense que c'est différent, la sagesse. Ouais.
Je repensais à cette phrase de Serge Gainsbourg, « La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. » C'est reposant aussi d'être con ?
Ah, mais bien sûr Attendez, je ne suis pas en train de faire croisade contre la connerie, hein, surtout pas. Je ne suis pas en train de vouloir corriger l'humanité de la connerie. C'est très bien d'être un peu con. Moi, je ne me gêne pas, rassurez-vous. C'est très bien de déconner. Ah, ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Ah, t'es con !» Quand je dis ça, ça veut dire que je dis à quelqu'un « T'es intelligent, en fait. Je sais que t'es pas comme ça. Je sais que tu te relâches un peu, que tu joues au con, donc t'es malin. Et moi, en plus, j'ai compris. Je suis malin aussi, je suis content. Donc t'es con, mais ça veut dire que t'es intelligent. Donc ça, il n'y a pas de problème pour ça. Le problème, c'est quand les cons refusent de reconnaître qu'ils le sont. Là, ça peut nous coûter très cher à tous. Et c'est malheureusement la solution la plus fréquente.
On peut parler un petit peu donc, maintenant de l'histoire universelle de la connerie, hein, qui est donc le deuxième volume. J'ai envie de vous poser une question qui s'applique d'ailleurs au premier aussi. C'est là, dans ce livre, on retrouve pareil, une trentaine de contributeurs. Alors, par exemple, Paul Venn, Steven Pinker, Antoine Debecq. Juste revenir sur le projet, sur l'idée. Déjà, comment vous avez eu l'idée ? Comment ça vous est venu, ça, un jour, d'écrire sur la connerie ? Et quand vous avez contacté les contributeurs, comment ont-ils réagi ?
Alors l'idée, tout le monde pense que je dis ça par coquetterie, mais c'est vrai, je suis parti de mon cas personnel, il m'est arrivé d'être tellement con que j'avais l'impression que c'était pas moi. Je me suis dit, mais quel est cet imposteur ? C'est un frère jumeau maléfique ? Non, c'était bien moi qui me suis comporté comme ça, ou qui ai pensé ça, je me suis dit, vache quand même, moi ? Bah ouais, et bon, j'ai tué personne, je vous rassure tout de suite, mais enfin, c'était assez spectaculaire, et je me dis que je suis pas le seul dans ce cas-là. Il y a des tas de gens qui disent comment j'ai pu être assez con pour faire ça dans ma vie, pour dire ça, pour gâcher ça, pour faire du mal. Et c'est une énigme personnelle. Alors je me suis dit, je vais bien écrire un livre là-dessus, mais un, ça va être beaucoup de boulot, et deux, ce ne sera pas très intéressant venant de moi. Donc je vais plutôt demander à des gens d'écrire qu'à des gens plus intelligents que moi. Donc j'ai sollicité effectivement, plusieurs dizaines de chercheurs de toutes les
disciplines. Oui, puis c'est pas forcément les mêmes contributeurs en plus entre le premier volume et le deuxième.
Non, il n'y a quasiment pas
de donc vous avez quand même demandé à 60 personnes d'écrire, qui sont des universitaires, qui sont des... Et est-ce qu'ils sont prêtés au jeu avec plaisir ? Est-ce qu'ils sont dit, je ne vois pas trop l'intérêt ou...
Alors, ils sont prêtés au jeu avec plaisir pour deux raisons. D'abord, parce que ça venait de sciences humaines. Ça, il faut bien le dire tout de même. Ça fait 30 ans que cette revue existe. et son corollaire, le Cercle Psy, et les éditions Sciences Humaines, ça fait 30 ans. Et moi, je suis dans le circuit depuis 2007. Donc, c'est une revue respectable. On n'est pas très connu, mais on est bien connu dans le milieu, on est respecté. Il est très rare que quelqu'un nous dise non pour une contribution. Donc là, j'aurais été un inconnu qui vient dans un, en disant « Bon, j'ai pas vraiment d'éditeur, mais j'ai une bonne idée, on va parler de la connerie, mais on va dire au revoir, monsieur. » Mais là, ils disent « Ah, Sciences Humaines. Tiens, Sciences Humaines fait ça. Okay. » Et puis, bon, il se trouve que pour le premier volume, les psychologues, j'en connaissais pas mal, j'avais eu l'occasion de travailler avec eux, de leur commander des textes déjà, ou de les interviewer. Donc, ils se sont dit « Ok, ça va être bizarre, mais ça va pas être tout à fait farfelu non plus. » Donc, ça, c'est une première raison qui fait que ça a marché. La deuxième raison, c'est qu'ils sont quand même ravis de parler du sujet. Ils sont ravis de pouvoir dire des gros mots, parce qu'ils s'ennuient.
C'est libérateur, en fait.
Ils s'ennuient. On croit que la vie à la fac, c'est super, que c'est des discussions toujours intéressantes. Avec des... Ils s'emmerdent. Alors là, oh, ils ont l'occasion d'écrire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, de se lâcher un peu en restant sérieux, hein, mais de se lâcher un peu sur un sujet que personne d'autre ne leur aurait demandé. Donc ça, ça leur a fait plaisir, je crois.
Alors, donc, cette histoire universelle de la connerie, c'est ça de la préhistoire jusqu'à nos jours. Donc, à chaque fois, c'est par chapitre, un spécialiste par chapitre. On passe par la Grèce antique, Rome, le Moyen-Âge, le 18e. Enfin, il y a énormément de choses. On apprend beaucoup de choses aussi sur l'histoire. Alors, première question, est-ce qu'il y a un moment où l'homme est devenu con ? Est-ce que l'homme a toujours été con ? Est-ce que l'homme préhistorique était con ? Ou est-ce qu'il y a eu un moment vraiment où ça a commencé, cette connerie humaine ?
On peut penser que le ver était dans le fruit. Mais enfin, ce qui est bizarre, c'est que plusieurs contributeurs s'accordent à dire qu'il y a eu une espèce de coup d'accélérateur dans l'histoire au néolithique. Ça commence mal. Mais enfin, ils se disent au néolithique, il s'est joué un truc pas normal, quoi. On était des chasseurs-cueilleurs tranquilles. Les anthropologues ont estimé qu'il fallait qu'on travaille 3-4 heures par jour pour subvenir à tous nos besoins. Le reste, c'était du bonus. Vous vous rendez compte, le temps qu'on passe aujourd'hui devant les écrans, ça nous suffisait pour manger, pour dormir, enfin pas pour dormir, pour nous alimenter, pour sur le camp, tout ça. 3-4 heures par jour. Et puis, il y a un moment, on s'est dit, plutôt que de suivre la viande, on va la parquer, on va la laisser à disposition. Et puis, on va faire pareil avec les plantes, on va sélectionner celles qui nous arrangent le plus. Et apparemment, c'était un bon pari, oui. On s'est retrouvé avec de la nourriture à profusion. La démographie a explosé. Les femmes ont fait 3-4 fois plus d'enfants, même si beaucoup mouraient en bas âge. Enfin, c'était spectaculaire, les gens étaient mieux nourris, tout ça. Mais, du coup, ils se sont retrouvés avec des besoins superflus, avec de l'alimentation superflue, avec des nécessités de stocker la nourriture. Donc, de se l'approprier, certains se l'approprient. Ça, c'est à moi, c'est moi qui vais décider ceci, cela. Et c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de choses ont changé. C'est à partir de ce moment-là que la hiérarchie s'est accentuée, qu'il y a eu plus de chefs, plus de sous-chefs, plus de milices, plus de petits soldats pour veiller à ceci, cela. C'est à ce moment-là que la religion s'est davantage institutionnalisée. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des inégalités donc flagrantes qui sont apparues. C'est à ce moment-là qu'on a cessé de sculpter uniquement des femmes ou de peindre uniquement des scènes rituelles de chasse. On s'est mis à sculpter des armes, des haumes, des haches, des boucliers, des objets de prestige qui n'étaient pas nécessaires pour la chasse, mais pour tuer son prochain. Et c'est à ce moment-là, surtout, qu'on retrouve énormément de traces de violence exercées à l'encontre d'autres humains. C'est rarissime. Avant le néolithique, je crois qu'on a trouvé une dizaine de squelettes humains portant des traces de coups assénés par des flèches ou peut-être des accidents de chasse, on ne sait pas très bien, et souvent les gens n'étaient pas achevés. Et à partir du néolithique, il y a des tas de, il y a des charniers, il y a des gens criblés de flèches, massacrés, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, cela dit, on peut dire oui, mais c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps de dire on a perdu le paradis, on a perdu l'âge d'or en se coupant avec la nature. Je sais bien que c'est dans l'air du temps. Mais en tout cas, c'est dans l'air du temps chez les paléontologues aussi, et chez les préhistoriens. Et surtout, il y a des traces archéologiques très nettes, et jusqu'à preuve du contraire. Ouais, c'est tout à fait plausible. Donc c'est du Rousseau, si vous voulez.
Donc effectivement, après, on voyage à travers l'histoire, à travers les différentes époques. Et ça, c'est assez passionnant. Parce qu'on se rend compte que donc la cornérie est universelle, elle est illimitée, elle est vaste. Donc il y a eu de la cornérie à chaque époque. Mais par contre, on a envie de savoir, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a une cornérie spécifique en fait. Enfin, en Grèce antique, c'était quoi être con, par exemple?
Alors, il y avait plusieurs définitions évidemment dans les spectacles, dans les écrits philosophiques. Parfois, par exemple, le con, c'était celui qui n'était pas instruit. Ok, mais comme par hasard, c'était celui qui était, c'est le paysan. C'était la Grèce périphérique, si vous voulez. Vous voyez, c'est les gens qui n'étaient pas des citoyens sur l'agora. C'était des lourdeaux. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on retrouve quand même assez souvent jusqu'à notre époque. Moi, j'habite dans un village de 300 habitants. Je peux vous dire que je passe pour un connard simplement parce que j'ai choisi d'habiter là, quoi. On dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah ouais, bah voilà. Donc ça n'a pas changé. Dans la Grèce antique aussi, le con, c'était celui qui faisait preuve d'hubris, c'est-à-dire de démesure, qui sortait de son statut, qui se croyait promis à un destin particulier. Ça, on le retrouve au Moyen-Âge, par exemple. Le con, par excellence, c'était celui qui croyait pouvoir braver la roue de la fortune, avoir un destin exceptionnel, parfois dans le sillage d'un grand personnage, et il montait avec lui, il descendait tous les deux. Donc le con, c'était l'ambitieux. C'était celui qui ne voulait pas rester à sa place, qui ne voulait pas rester faire la même chose que ses parents, qui voulait déménager, qui voulait aller à la ville. Tout ça, ça n'a pas la tête. Ça, c'est quelque chose d'assez récurrent aussi. Le con, celui qui se croit plus malin que les autres. Quand il provoque des catastrophes pour lui seul, ce n'est pas bien grave. Quand il entraîne un pays derrière lui, c'est un peu plus fâcheux.
À partir de quand le con est devenu l'autre? Et là, on pense peut-être à la Rome antique et aux barbares, en fait, parce qu'il y a tout un chapitre par Bruno Dumézil sur le barbare. Est-ce que c'est pas à partir de là, je sais pas, où l'autre, c'était vraiment... le con, c'était l'autre, l'étranger...
Oui, c'est ça, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu l'épouvantail, quoi, celui dans lequel on ne se reconnaît pas. Le barbare, c'est celui qui est vraiment pas comme moi, qui n'a pas mes usages, que je connais pas forcément. Mais on me le présente comme ça aussi dans la Rome antique. C'était très bien d'avoir des barbares. C'est très pratique pour justifier les hausses d'impôts, par exemple. Bah ouais, mais on a besoin d'argent pour repousser les barbares. Et on disait ça même au temps où les barbares étaient plus nombreux que les Romains de souche, si je puis dire, dans l'armée romaine. Les barbares étaient assimilés. Ils étaient tellement nombreux. Ils contribuaient tellement à la sécurité de Rome qu'il fallait quand même prélever des impôts pour prétendre lutter contre eux. Donc le barbare, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. On en a toujours, hein. Bon, certains le sont peut-être vraiment, mais...
Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des époques où il y a un chapitre sur la Chine ancienne, sur la sottise dans la Chine ancienne. On a l'impression, enfin on fantasme peut-être l'époque aussi, mais c'est vrai que c'est quand même la philosophie chinoise, c'est une des grandes traditions spirituelles de l'humanité. Il y avait aussi des cons à l'époque voilà.
Oui, mais
alors. Elle s'exprimait différemment.
Ce qui est intéressant, c'est que si j'ai bien compris la pensée chinoise exprimée dans le livre, le con et le sage sont dangereusement proches, finalement. Comme si le con était un sage en devenir. Bon, ça, pourquoi pas? Est-ce quelqu'un qui n'a pas encore appris, qui manque de maturité, les expériences vont se charger de le rendre plus sage? Pourquoi pas? Mais peut-être que le sage est un con en devenir aussi. Ah! Mais pourquoi? Parce que le sage, s'il pense qu'il a gagné la partie, s'il pense que ça y est, je sais ce que c'est que la sagesse et je l'incarne. Oh mon pauvre vieux, il faut que tu recommences à zéro. Donc dans ce sens-là, c'est une espèce de dialectique, une dialectique éternelle. On peut voir ça comme quelque chose de désespérant ou quelque chose d'assez amusant, une espèce de chorégraphie entre la connerie et la sagesse.
Il y a deux chapitres ou trois sur la religion. Moi, ça m'intéresse particulièrement parce que je suis dans le rayon religion. Il y a une partie sur le bouddhisme, une partie sur l'hindouisme et tout un chapitre aussi dirigé, écrit par Virginie Larousse, mm-hmm. qui dirige donc le monde des religions. Ouais. La religion, c'est un grand vecteur de conneries ou pas? C'est pour ça que je rajoute le ou pas.
Disons que c'est un beau prétexte quand on décide d'être con. C'est presque trop beau pour être vrai. J'ai décidé que toi, tu étais con et je vais pouvoir te massacrer parce que la sagesse suprême est d'accord avec moi. Bon. Pour autant, est-ce que la religion est le seul vecteur de conneries de ce genre ? Non, on peut très bien massacrer des gens au nom de la politique. Ce n'est pas un problème. Est-ce que la religion ne produit que de la connerie ? Bien sûr que non. On a tous en tête des gens qui... Ouais, on ne partage pas forcément leur foi. Mais enfin, on se dit, ouais, leur comportement était exemplaire. J'aimerais bien être un peu aussi... indulgent, un peu aussi bienveillant, un peu aussi intéressé par la misère d'autrui que telle ou telle personne. Donc ça, c'est des gens sincères. On ne peut pas dire que la religion les a rendus cons. Donc le raccourci religion égale connerie, c'est tentant, mais moi, je n'ai pas très envie de le faire. Pas seulement parce que je ne tiens pas à me faire tirer dessus, mais parce que je pense vraiment que c'est plus compliqué que ça. Je connais des athées qui sont très cons aussi et qui ont une forme d'athéisme qui se rapproche dangereusement d'une religion, ouais, qui refuse tellement qu'il puisse y avoir quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Non, on a l'impression qu'ils sont aussi intolérants que des fanatiques, parfois. Ce serait trop facile de dire, oui, les athées, les rationalistes sont très intelligents, très sages, et puis les religions sont une bande de cons. Malheureusement, c'est trop compliqué pour être résumé ainsi, à mon avis. Ou alors, je suis con aussi. On ne peut pas exclure cette hypothèse.
Est-ce qu'on pourrait proposer une lecture marxiste de l'histoire de la connerie ? Est-ce qu'il y aurait des différences suivant les classes, suivant les luttes de classe, parce que vous parliez de pouvoir tout à l'heure, est-ce que par exemple, la connerie appartient plus à une classe privilégiée ou pas ? Ou est-ce qu'elle est également partagée entre toutes les classes ?
Psychologie de la connerie.
Le bourgeois, par exemple, qu'on a souvent assimilé.
Oui, bah le
con.
Oui, mais qui l'a assimilé au con ? Bah ceux qui ne sont pas bourgeois, qui aimeraient bien le devenir, ou alors au contraire au-dessus qui ont peur. Autant de Molière ont caricaturé le bourgeois parce qu'on avait peur qu'il remplace l'aristocrate, tout simplement. Et non, bah, toi t'es con, t'as rien compris, t'es un bourgeois gentilhomme. Mais ça ne marche pas comme ça, l'aristocratie. Okay. Quand Psychologie de la connerie est sortie, la crise des gilets jaunes a éclaté. Alors,
est-ce qu'il y a eu un lien ou...
Eh bien, vous rigolez, mais je suis tombé sur des tas de gens qui m'ont dit « C'est quoi un con ?» Alors, je dis « Souvent, le con, il est suffisant, il croit avoir tout compris. » Alors, il y en a « Ah, c'est Macron !» Okay. Et puis parfois, je recevais des mails d'universitaires qui me disaient « Ah bah dites donc, vous faites un livre sur la connerie. Avec les gilets jaunes, vous avez de quoi faire en ce moment. » Donc chaque camp voyait dans l'apparition de l'autre ou dans le maintien de l'autre le triomphe de la connerie. Les gilets jaunes voyaient dans les universitaires que je faisais travailler une bande de cons qui n'avaient rien compris et qui étaient suffisants, coupés du terrain, tout ça. Et les universitaires voyaient dans les gilets jaunes des abrutis qui n'avaient jamais fait d'études. Et comme par hasard, à chaque fois qu'on me parlait à moi, on supposait que j'étais dans le bon camp. Et des gens que je connaissais qui étaient vraiment gilets jaunes, qui disaient « Ah, avec Macron, tu vas rigoler avec la connerie hein, !» bah, ouais. Et puis des gens qui sont voilà, très contents que Macron soit au pouvoir, qui me disaient « Avec les gilets jaunes, vous allez avoir du boulot hein. !» Et aucun des deux n'a pu penser que j'avais de la sympathie pour le camp d'en face. Ça, c'est marrant. Et ça, c'est pareil pour les discussions politiques. Souvent, on me dit « Voilà, on commence à bien me connaître, alors on me dit ouais, t'as vu la droite hein. On m'a pas demandé si j'étais de gauche. Et inversement, oh les gens de gauche, putain. Attends, oui, mais on m'a rien demandé. On me trouve sympathique, alors on suppose que je suis pas con. Mais c'est peut-être se leurrer. Donc voilà, chaque camp voit l'autre comme une grande catégorie, on met tout le monde dans le même sac, on se coupe bien fort, c'est une bande de cons. Voilà, c'est pratique. On est tous comme ça.
Alors, est-ce qu'au regard de l'histoire, selon vous, il y a eu des grands pics de conneries ? Est-ce qu'il y a eu vraiment une période, on va dire, de la préhistoire jusqu'au XXe siècle ? On va parler aussi un peu plus du XXe siècle, parce que c'est quand même un siècle aussi assez noir, on va dire. On a même l'impression que plus ça va et plus on est con. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on a ressenti à toutes les époques ? Ou est-ce que vraiment on a évolué par rapport, je ne sais pas, par rapport à il y a quelques siècles, où vraiment... Comment vous voyez ça ?
Alors, je pense que chaque époque s'est pensée comme la plus conne de toutes. Chaque époque se croyait au bord du gouffre. Les gens sont de plus en plus cons. Les jeunes sont de plus en plus respectueux. Du temps de nos pères, c'était bien autre chose. On trouve ça au 19e. On trouve ça à la Renaissance. Et on trouve ça jusque dans la Grèce antique.
Pourtant, c'est un discours de vieux cons.
Il faut croire qu'il y a toujours des vieux cons. on les a pas inventés. On a toujours l'impression que la nostalgie, que c'était mieux avant, de mon temps, les gens se parlaient plus, tout ça. Peut-être qu'il y a une époque, effectivement, qui était un âge d'or, qui a été un peu épargné. J'en suis pas persuadé du tout. Moi, dans mon village, j'ai une voisine qui a 90 ans bien sonné, qui a eu une dizaine d'enfants. Elle a passé toute sa vie à faire à manger pour ses enfants, à faire à manger pour son mari, à faire à manger pour les ouvriers agricoles qui travaillent dans la ferme. Toute sa vie. Et elle m'a dit une phrase sublime qui mériterait de passer à la postérité. Elle m'a dit, vous savez, ceux qui parlent du bon vieux temps, ils ne l'ont pas connu. Waouh ! Bravo, madame. Bravo, Geneviève. Franchement, rappelons-nous quand même qu'il y a 50 ans, ouais, dans les années 60, ça paraît une super époque, bien, hein, c'est la pop, c'est l'amour libre, c'est la contre-culture, c'est génial. Dans les années 60, quand même, encore aux États-Unis, les Noirs et les Blancs n'avaient pas le droit de s'asseoir aux mêmes places dans les bus. Il y avait des toilettes pour les Noirs, des restaurants pour les Blancs. Il y a un film, j'ai oublié le titre, c'est l'histoire d'un jeune pianiste prodige noir qui sillonne les États-Unis. Comment ça s'appelle ? Green Book. Green Book. Alors, il sillonne les États-Unis, il est en tournée, donc tout le monde le trouve extraordinaire, et son chauffeur est blanc. Et on lui interdit les restaurants. On l'applaudit, les Blancs vont l'applaudir, et puis après, il va aller dans un resto. Non, pas, non, parce que ça va causer des problèmes. Et tout le monde trouvait ça normal, années 60. Jusqu'aux années 70, je crois, une femme n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de son mari. C'est ça, hein ? Une femme ne pouvait pas demander le divorce, je crois. 63 ? Voilà. La femme n'avait pas le droit de vote. 63, l'autorisation de travailler sans demander l'autorisation du mari. 63. Pas 63 après Jésus-Christ, 1963. Okay. L'homosexualité est considérée comme une maladie mentale, à traiter par des électrochocs jusqu'à la fin du XXe siècle. Okay. Est-ce que vraiment c'est pire aujourd'hui ? Et je vous laisse répondre.
Et je pense qu'il y a cette tentation d'imaginer. Alors, peut-être aussi parce qu'on vit une époque où. Alors, on peut penser aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, effectivement, ça vous le dit. Enfin, on peut y trouver la plus grande intelligence comme la plus grande stupidité. Mais c'est vrai qu'à une époque, moi, je pense aux réseaux sociaux et je pense effectivement, ce serait bien qu'on en parle, au réchauffement climatique, en fait. Donc, cet anthropocène, en fait, où on est en train de créer notre propre perte. Ça, c'est assez inédit, hein, parce qu'on a même nommé donc cette ère géologique anthropocène, c'est quand même inédit. Ou voilà, donc alors voilà, est-ce que c'est une répétition de l'histoire de se trouver la période la plus conne, ou est-ce qu'on n'a pas franchi un cap quand même dans la stupidité humaine ou la connerie? Ou
depuis Hiroshima, on sait qu'on est la seule espèce capable de suicider quand même. Moi, quand j'étais petit, on me disait que les Russes allaient envahir la France, que c'était. Les gens d'Ormesson avaient écrit dans le Figaro que Mitterrand au pouvoir, c'était les Russes sur les Champs-Élysées, si je me souviens bien, hein, quelque chose comme ça. Pourtant, c'était pas spécialement con, Ormesson, je suis désolé. Bon, voilà, ça arrive aussi de dire des conneries. Après, on nous a dit, non, les Russes, c'est râpé, ils vont pas nous envahir, c'est mal parti, mais ça va être les musulmans. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, quand j'étais ado, j'avais lu les prophéties de Nostradamus. Alors, c'est les années 80. Alors, à l'époque, c'est traduit comme « les Russes vont déferler sur la France ». Puis dans les années 90, non, c'était les musulmans déferlent sur la France. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va nous déferler dessus. Bon. Donc, il y a toujours eu des menaces comme ça, des menaces globales. Le réchauffement, la particularité, c'est que on peut difficilement y échapper quand même. Mais l'avantage, c'est qu'on en prend vraiment conscience très tardivement, parce que ça aussi, on en parle depuis que je suis gamin. Non. On en prend conscience de façon massive et très tardivement, mais au moins, on en parle. C'est devenu l'un des sujets de conversation les plus fréquents dans les conversations des Français. Hein. Ça a été mesuré, je crois, l'année dernière. C'est l'un des tout premiers sujets de conversation. C'est difficile d'aller dans un repas de famille ou un repas de copains sans que quelqu'un parle de sa dernière initiative bio, de sa dernière manifestation. Et notamment chez les très jeunes, moi j'en connais, 15-16 ans, allez, je suis végé, je fais les marches pour le climat, Greta Thunberg, quoi, c'est cette génération-là. Alors on peut dire, ouais, mais elle n'y connaît rien, N'empêche qu'il y a des gens qui essaient vraiment de se bouger, et c'est les plus jeunes, ceux qui sont censés être les plus avachis, les ados. Oh, ils passent leur temps sur leur écran. N'empêche que c'est quand même parmi les ados qu'on trouve beaucoup de gens qui se bougent vraiment aujourd'hui. J'espère que ça suffira, mais c'est déjà bien que ça arrive. Donc, cette menace arrive quand même à une époque où on n'a jamais été aussi connectés les uns aux autres. C'est la première époque où un événement peut devenir mondial tout de suite. Une initiative peut devenir mondiale tout de suite. Une prise de conscience peut être accélérée par ça. C'est quand même pas mal que ça arrive maintenant. Si c'était arrivé il y a un siècle, on serait mort. Ou alors on serait plus qu'une poignée à vivre dans le désert. Non. Donc c'est pas si mal quand même. Il y a une note d'espoir.
D'accord. Est-ce que vous pensez cependant que la connerie a encore de l'avenir ?
Elle nous enterrera tous. Bien sûr qu'elle a de l'avenir, on ne sait pas encore exactement sous quelle forme, on n'a aucune idée de ce à quoi ressemblera le monde, ne serait-ce que dans 50 ans, ça accélère tellement vite et tellement de plus en plus vite, on ne sait pas du tout, mais alors du tout à quoi ça va ressembler. Ce sera peut-être un paradis total, un enfer total. N'oubliez pas qu'il y a plein de gens, tiens, moi je me souviens dans les années 90, quand j'ai parlé d'Internet à des gens qui étaient à la fac avec moi, il y en a plein qui avaient peur. Je me souviens encore, une copine, elle m'a dit « Je ne veux pas entendre parler de ton truc. » Je lui ai dit « Mais attends, mais c'est génial, tu te rends compte, on va avoir tous les livres du monde à portée de doigt, on va pouvoir avoir tous les tableaux du monde, toutes les théories, tous les films, un jour peut-être on pourra télécharger des films. » Elle m'a dit « Mais ça ne va pas, non, je ne veux pas de ça. » Et j'en connaissais une qui ne voulait pas avoir d'ordinateur. Je lui avais donné ma machine à écrire quand j'ai eu un ordi. « Tu n'en veux pas ? » ?»« Non, donne-moi ta machine, moi je tape là-dessus. » C'est les années 90, quoi. Et franchement, c'est effrayant aujourd'hui d'avoir un ordi, et de ne pas écrire à la main. Faut s'y effayer. Et on n'imagine pas la vie comme ça. Moi, je ne voulais pas de téléphone portable. En me disant, mais je ne veux pas qu'on m'emmerde. Si je veux être dans la rue, je n'ai pas envie qu'on m'appelle. Ben maintenant, quand je n'ai pas de téléphone portable dans la rue, je n'ai pas envie qu'on m'appelle, mais j'ai envie d'en avoir un pour que je puisse appeler en cas de pépin. Voilà. Et puis quand on conduit à la campagne comme moi, c'est quand même bien d'avoir ça. Donc, ce qui fait peur aujourd'hui, ce qui paraît inhumain, ce qui paraît stupide, désespérant, nous sera peut-être le quotidien le plus ordinaire dans 20 ans, et ce sera très bien comme ça. Et inversement, si on pouvait voyager dans le temps et retrouver les conditions de vie de certains de nos ancêtres, on serait horrifié, on dirait « mais je ne tiens pas une semaine là-dedans. Je ne tiens pas une semaine là-dedans, je ne tiens pas une semaine sans douche. Voilà, je ne tiens pas une semaine sans, en étant obligé de rester au fourneau. Je ne tiens pas une semaine en étant obligé d'aller à la messe même si je n'ai pas envie. Je ne tiens pas une semaine, sachant que je vais être obligé de partir pour 3 ans de service militaire.
Qu'est-ce que vous avez appris en ayant dirigé ces deux livres Qu'est-ce que ça vous a renseigné, nourri Qu'est-ce que vous en tirez?
J'ai jamais eu aussi peu de certitude de ma vie sur quoi que ce soit, et surtout pas sur moi. Mais ça me va très bien, je suis très content. Moi, j'aime bien douter, j'aime bien même me tromper. Donc je suis servi. Ça m'a appris ça, ça m'a appris que oui, la connerie, c'est pas forcément le contraire de l'intelligence. À titre personnel, ça m'a appris que j'étais susceptible de faire du bien avec des livres. Alors ça m'avait jamais effleuré, moi. Je fais mes bouquins, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant que ça leur avait fait du bien de lire ça.
Enfin, vous avez imaginé le nombre de repas de Noël où on offre psychologie de la connerie au beau-père ou à la belle-mère. Le nombre d'histoires que ça a dû créer, quand même.
Non, le tout est de l'offrir avec tact.
Oui, c'est ça.
Je te l'offre, mais c'est pour mieux me comprendre.
Moi, je me demandais à chaque fois, quand on offre ça, tiens, oui, ok, d'accord.
Non, il faut l'offrir à des gens qui ont de l'humour. Et puis, mais s'ils ont de l'humour, ils ne sont pas très cons. Donc, hey. Ça passe très bien. Non, j'imaginais absolument pas qu'on... Non. Personne n'imaginait ça.
Oui, vous n'imaginiez pas le succès de ce livre à ce point-là, ouais.
Pas du tout. Je me disais, si on en vend 5 000, c'est un triomphe, quoi. Ce sera génial. Bon, on est bientôt à 80 000, avec 19 traductions. Ça va être vendu en Russie, en Chine, aux États-Unis. Enfin, quand je vous dis que j'ai rien compris. Mais si j'avais su que ça marcherait aussi bien, peut-être même que je l'aurais pas fait. Con comme je suis.
Ça aurait été con, ça, par contre.
Non, parce que je me serais confié-le à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai aucune envie de la librairie Mola, je vais être ridicule. La télé, j'ai pas envie d'y passer. C'est le truc qui me fait le plus peur. Et puis on va, c'est moi qu'on va inviter et pas les 30 chercheurs. C'est quand même bizarre, quoi. J'aurais peut-être dit faites-le faire par quelqu'un d'autre. Mais comme je suis un peu con, j'aurais fini par céder.
Merci beaucoup. À vous.